mon copain, oui, ma naga du boudé, qui fait sorcier dans les chasseurs à pied, entre ta nana, rive et bagnolet.
Radio Libertaire 89.4.
Plus ou moins au pif, affirmatif. C'est la chansonnette du négatif. J'en pouvais plus, je voulais me jeter dans l'ac des signes. Le signe plus d'auto brûlé dans la rue Laguine. Le signe moins, encore plus pauvre qu'hier, c'est la ligne. Levez le poing, juste pour le signe fucking, c'est indigne. Pince-moi, pense plus, pince-moi, pense plus, c'est la chansonnette du négatif. Pince-moi, pense plus, pince-moi, pense plus, c'est la chansonnette du négatif. Signe positif, chez la bad industrial reason. Pense négatif, chez l'orange industrial reason. Pince-moi, pense plus, pince-moi, pense plus, c'est la chansonnette du négatif. Pince-moi, pense plus, pince-moi, pense plus, c'est la chansonnette du négatif. Moins, moins, c'est plus d'abnégation de la négation. Chez madame plus, monsieur plus ou moins, fais attention. Pince-moi, pense plus, pince-moi, pense plus, c'est la chansonnette du négatif. Pince-moi, pense plus, pince-moi, pense plus, c'est la chansonnette du négatif.
Soleil et des canards, et même quand il y a de la pluie, on dit oh ça c'est bon pour le navet noir. J'ai des arbres par milliers, des fleurs, et la mer n'est jamais loin. J'y amène cousines et sœurs, l'océan et notre jardin.
Mon quartier c'est mieux qu'un pays, c'est un monde à lui tout seul. À 100 mètres j'ai l'Algérie, des nomades, tziganes ou peuls. Pas de tradition millénaire, en crasse et rigide et frileuse. La culture révolutionnaire du métissage en musique heureuse. Je te chambre pour la danse, et
je te chambre pour le geste.
Je te chambre pour que ça balance,
je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays on est modeste.
Et mon voisin roule ses R et tu trouves ça très rigolo. Mais le tien sonne la misère qui déroule dans le métro. On dit où abandonner si Paris était capitale. Elle serait seule des paumes et des crèves, la faim qui ont que dalle.
Vas-y, va, on va entraver, je vais t'apprendre notre patois. C'est la langue de la cité, c'est la chambre des gens d'en bas. Prends ta gova et fais-toi saisir, je te loge pour pas enlever. Tu voulais visiter Agadir, c'est ton spa welcome au quartier. Je te chambre pour la danse,
je te chambre pour le geste.
Je te chambre pour que ça balance,
et je te chambre pour le reste.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays on est modeste.
La pulì d'ovido e a l'usule e lui fece grazie. L'applausus tu m'a pulito me fa venir tout coquinas.
Nos quartiers c'est tous les pays, nos pays c'est le monde entier. On partage la belle vie, pour les frontières pas de quartier.
Mon pays la pulì d'ovido e a l'usule e lui fece grazie.
On partage la belle vie, pour les frontières pas de quartier.
On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, on chante aussi pour le reste. On chante pour la danse, on chante pour le geste. On chante pour que ça balance, dans mon pays, on est modeste.
Y'a pas de quartier, y'a pas de frontières, y'a pas de quartier pour les frontières.
On va chanter avec nos petits coups.
Allez, tous ensemble ça.
La musique.
Caravanana maximum.
Sa gueule, sa
gueule. Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
Il que permit à pédale.
Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 FM à Paris et en région parisienne, et radio-libertaire.net dans le monde entier, en région parisienne. Vous écoutez Les Oreilles Libres et nous accueillons aujourd'hui Anna Holweck. Bonjour Anna.
Bonjour.
Alors Anna, peux-tu nous dire ce que nous venons d'écouter ?
Alors on vient d'écouter deux morceaux. Le premier, c'est Doum Doum Doum, et le deuxième, c'est un extrait d'une performance qui s'appelle And If That Mockingbird Don't Sing. Alors du coup, le premier, c'est drôle qu'on commence avec ça parce que c'est en fait ma berceuse que me chantait du coup plutôt ma maman quand j'étais petite, quoi, et qui est en fait une berceuse qu'elle-même a récupérée, on ne sait pas vraiment où, mais qu'elle chante depuis un peu toujours en yaourt hébreu. Donc les mots n'ont pas de sens. C'est vraiment qu'elle a récupéré ça. Et puis elle le chante comme ça depuis toujours. Donc on le chante aussi de la manière dont elle le chantait. Et c'est assez drôle qu'on associe ça avec cette deuxième pièce, parce que du coup cette deuxième pièce, c'est autour des berceuses aussi. Et c'est une pièce que j'ai créée dans le cadre d'une résidence dans les environs de Bordeaux, où j'avais à disposition un bus avec un studio d'enregistrement à l'intérieur, et on a sillonné un peu les banlieues de Bordeaux pour enregistrer, proposer à une cinquantaine de personnes d'enregistrer leurs berceuses, les enregistrer du coup de manière un peu différente, des fois en faisant juste des sons ralentis de leur berceuse, parfois c'était la berceuse en entier, parfois c'était des phrases répétitives, enfin voilà, d'enregistrer un peu les motifs. Et j'ai fait un montage à partir de tous ces enregistrements, et à force de monter, en fait, je les ai toutes apprises par cœur, enfin elles ont tourné dans ma tête pendant des semaines et des semaines, et donc je me suis dit que finalement ce montage allait devenir une performance où j'allais chanter moi sans amplification une ligne mélodique de ce montage, en imitant, en répétant les berceuses des gens que j'avais enregistrées. Et eux étaient donc dans un groupe d'enceinte, eux sont dans un groupe d'enceinte, et moi à côté sans amplification, et je me perds un peu dans leur voix. Parfois je suis au-dessus, parfois en dessous, parfois en retard, parfois en avance, voilà.
Dans ces deux extraits, comme dans la plus grande partie de ton travail, la voix tient un rôle essentiel. Quelle est ta formation, et pourquoi et comment es-tu venue au travail de la voix ?
Alors, j'ai toujours chanté, de ce dont je me souvienne. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Peut-être, bon, ça c'est un peu l'anecdote, mais peut-être ça vient du fait que ma mère chantait pendant qu'elle était enceinte, et beaucoup, et a même accouché en chantant. Donc il y a un truc où le chant apparemment a l'air d'être là depuis toujours, quoi. Et donc après, j'ai pas du tout, enfin oui, non, j'ai beaucoup chanté adolescente, j'ai pris des cours de chant lyrique, mais j'avais pas du tout envie de devenir chanteuse, enfin c'était pas du tout ça que je voulais faire. Et puis j'ai fait les beaux-arts dans l'objectif de faire plutôt de la peinture, de la sculpture, enfin voilà, j'avais pas trop idée exactement, et en fait la voix est revenue assez naturellement pendant mes études aux beaux-arts, et plutôt elle est revenue par le son, en fait, parce que je pensais que je voulais faire, enfin le son est arrivé dans ma pratique de vidéo aux beaux-arts, et en fait par le son, très vite, la voix est apparue aussi. Mais j'étais plutôt persuadée que ce que je voulais faire, c'était avoir une pratique sonore aux Beaux-Arts. Donc j'ai fait une autre formation en même temps que celle des Beaux-Arts à l'École nationale de musique de Villeurbanne, en composition électroacoustique. Donc j'ai fait ce double cursus en même temps. Et en fait, naturellement, vraiment la voix a pris de plus en plus de place. Et en fait, c'est que depuis, je sais pas, peut-être un an ou deux que je définis vraiment ma pratique par la voix. Mais pendant longtemps, c'était le son qui... que je pensais être l'endroit central, quoi.
D'accord. On peut retrouver cette première berceuse si on écoute tout le deuxième morceau, And If That Mockingbird Don't Sing. On peut la retrouver, la première doum doum doum, dans la deuxième. C'est ce morceau qui t'a donné l'envie de créer And If That Mockingbird Don't Sing?
Eh ben non, en fait, j'y ai pas du tout pensé au début. Au début, c'était parce que ce travail autour des berceuses, c'était parce que je m'intéressais aux ritournelles. Ce projet à Bordeaux, c'est avec Panorama, qui est un centre d'art à Bordeaux, et qui avait envie de travailler sur le territoire d'un grand parc qui relie des banlieues bordelaises. Et donc je me suis dit tiens, il y avait beaucoup cette histoire du territoire, et je me demandais, voilà, la ritournelle, le territoire, avec aussi les écrits de Deleuze qui parlent de cette musique répétitive qui définit un espace, enfin qui définit les contours d'un espace dans lequel on se sent en sécurité. Enfin voilà, il y avait cette idée de la musique, du lieu et du territoire. Et donc c'est comme ça que je me suis dit que j'avais envie de travailler avec avec les berceuses de tous ces gens qui sont aussi c'est des banlieues où il y a énormément de nationalités différentes, donc la berceuse c'est aussi d'où on provient, quelle langue on parle, quelle langue on nous a transmis ou pas transmis, est-ce qu'on comprend ce qu'on dit ou est-ce qu'on chante que la forme de ce qu'on dit, enfin voilà, il y a toutes ces questions un peu qui arrivaient, et en fait c'est en faisant ces enregistrements que je me suis aperçue que ça avait un lien avec ma propre berceuse, quoi. Mmh. Et que j'ai eu envie, du coup, de l'enregistrer dans le bus comme les autres, comme une matière. Et puis qui s'est finalement, que je chante à la toute fin de la performance, parce qu'en fait, c'est le tout début, donc voilà, il y avait.
Mmh. Tu parlais de Gilles Deleuze et donc Félix Guattari dans Mille Plateaux. Il classe donc les berceuses. Tu parlais de ritournelle. Donc ça te tient à cœur parce que en fait tu en parles de la ritournelle. Tu viens d'en parler et il y a aussi une installation sonore qui s'appelle Ritournelle. Et pour Deleuze et Guattari, la ritournelle aussi a une fonction aussi de détériorisation, en ce sens que son utilisation tend à rendre le son autonome. J'ai l'impression qu'il existe cela dans ton travail, rendre le son autonome. Je me trompe?
Non, ouais, c'est juste la déterritorialisation. Ouais, c'est assez dur à dire. C'est un concept un peu compliqué, mais oui, il y a cette idée. Il y avait cette idée aussi de est-ce qu'un oiseau est musicien ou pas, est-ce qu'il chante pour définir un territoire, est-ce qu'il chante pour autre chose, enfin, et en fait il y a un peu cette chose là dans cette pièce des voix qui sont enregistrées, donc qui sont comme séparées du corps, séparées de l'instant, et qui deviennent une espèce de grande il y a des accointances en fait entre les berceuses, elles se rejoignent, elles se mélodiquement, c'est comme ça que j'ai construit le montage, c'est-à-dire qu'elles se sont comme par capillarité rejointes. Il y a vraiment des similitudes, il y a aussi beaucoup de différences, mais il y a aussi des ritournelles qui sont dans plusieurs langues différentes, les mêmes. Après, dans le fait de pouvoir moi les chanter, les reprendre dans ma voix, dans cette idée que il y a un déplacement en fait. Voilà, il y a un déplacement de ces chants qui sont à la fois, on est complètement pris dans leur voix, dans leur émotion, dans leur singularité, mais il y a aussi une espèce de grande masse de chants, enfin qui sont les chants qui tournent autour de nous tout le temps, enfin qui sont les chants de tout le monde, à tout le monde, et qui sont aussi les chants de chacun. Au début, je pensais recueillir des histoires super super singulières parce que moi, ma berceuse, elle est très singulière, parce que je suis même pas sûre que ce soit une berceuse à la base. Elle est réécrite, réinventée. On sait pas où est-ce qu'elle a été prise. Enfin voilà, il y a un peu cette singularité de l'histoire. Et donc je pensais aller enregistrer des histoires très singulières. Puis en fait, il y avait beaucoup beaucoup de chants qui revenaient. Et les histoires sont singulières, mais les chants sont collectifs. Enfin, il y avait un peu cette chose-là qui était étonnante. Je m'attendais pas à ça. Ouais.
D'accord. Tu parlais des langues. Tu parlais de l'intime, hein, et du collectif. Dans la performance En une expiration, j'ai eu ce sentiment également que le son se décolle du sens, et ce d'autant plus qu'il y a l'utilisation de la vitesse et des langues étrangères. Donc, est-ce que là, j'ai bon là?
Oui, complètement. Ça, c'est une pièce qui est bien antérieure. Et effectivement, elle est née d'un exercice de théâtre que j'avais fait pour m'échauffer ou m'entraîner. Je sais plus où d'ailleurs, peut-être dans un stage. Et où on demande aux personnes de dire le plus vite possible lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en articulant et en disant le plus de fois possible en un souffle, quoi. Et j'avais été super étonnée par la forme que ça crée très très vite, quoi. Enfin, qu'avec une seule consigne, on crée vraiment une forme sonore. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans mes performances, d'avoir un protocole très lisible qui produit de la forme hyper vite, quoi. Et du coup, après, je l'ai un peu tordu dans tous les sens, cet exercice, et puis m'est venue l'idée des différentes langues, et puis de qu'est-ce qu'on connaît par cœur. Enfin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est quelque chose auquel on réfléchit pas et qui sort voilà, sans presque utiliser la case de la mémoire, en fait. Et donc, ça m'a donné envie de travailler avec des textes qu'on connaît par cœur depuis toujours et qui, effectivement, parce qu'on les connaît par cœur, deviennent plus une forme qu'un sens, et que ce pouvoir de la forme nous sert à pouvoir mobiliser le langage encore plus vite. Et puis, en condensant ce langage, en le rendant le plus saturé possible, aussi de faire apparaître finalement l'articulation des langues. Comment est-ce que déjà les langues se confondent entre l'espagnol et l'allemand, il y a moins de distance, quoi. Et puis en même temps on entend vraiment quelque chose du son de la langue elle-même, quoi. Et donc ouais, il y a vraiment cette dissociation du son et du sens. Et en même temps, il y a aussi un écrasement de la mélodie, parce que souvent, quand on apprend un texte par cœur, on apprend une mélodie. Et là, la demande auprès des personnes qui performent, c'est de, à peu près toutes et tous, arriver sur un son assez similaire mélodique, qui est plutôt une ligne sans variation mélodique, d'une grande densité, quoi. Donc, il y a aussi quand même un écart, un travail, ouais, d'écart, non seulement avec le sens, mais aussi avec la mélodie des mots, quoi. Avec la comment ça s'appelle, la prosodie, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais. Ça s'appelle la prosodie. Ouais. Et ben, on va écouter. On a une expiration.
Le jour n'est pas si mensonge que l'on croit, va apparaître devant vous, vous parlez de la nuit, vous parlez de la licence, que connaissez-vous du jour, parce que vous êtes des acteurs qui vous sur la scène, vous comme les frères de la nuit, vous comme les complices de la nuit, vous comme faisant partie de ce qui coule dans la nuit, l'oubli de la mort, que connaissez-vous de la nuit.
L'amour, c'est qu'une question permanente, notre action sensitive, c'est la personnalité, finalement, mais examinons, on cherche le marque de nos actions.
Je me souviens toujours que vous dans l'inspiration, vous faites question de réduire votre portée, madame, avec tranquillité, vous pouvez se reposer sur ma fidélité, aussi bien ses soupçons, ses blagues, ça, si tu veux, grave.
Fio a la base de la tumula, un sam cafata se me seja y que por fio la chia rafaya, tata la zaya que peta la am, su nomi en fio a la base de la tumula, un sam cafata
se me seja y que por fio la chia rafaya,
tata la zaya que peta la am, su nomi en fio la base de la tumula, un sam cafata se me seja y que por fio la chia rafaya, tata la zaya que peta la am, su nomi en fio la base de la tumula, un sam cafata se me seja y que por fio la
Volareo, catareo, nel bout des pieds de blu, felice di stare lassù, e volavo, vola più in alto da sola, d'ancora più giù.
Je me souviens toujours que je vous en prie, si vous faites des photos de votre métier, madame, avec tranquillité, vous passerez passer sur ma fidélité, aussi bien que ça, comme ça, madame, c'est une fois, 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 c'est une
fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois,
c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une
fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une
fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une
fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une
fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois, c'est une fois depuis peu, ouais, je m'intéresse vraiment à ce qui est dans la voix plutôt que ce qui reste. Et j'ai l'impression, enfin voilà, c'est aussi toute une recherche que je mène autour de la voix hors du corps. Comment est-ce qu'elle voyage quand elle est hors du corps, et à quel point dans la voix elle-même, en fait, il y a du corps. Enfin, il y a l'identité, il y a la singularité. Elle transporte en elle-même tout un corps, en fait. Enfin, c'est le corps qui aide à produire, enfin qui fait la voix, quoi. Et puis en même temps, quand la voix sort, finalement, le corps est hyper lisible à l'intérieur d'elle-même. D'ailleurs, c'est un truc auquel je pense, la voix des frères et sœurs, enfin la voix des sœurs notamment. Comment est-ce que c'est curieux de voir à quel point les voix des sœurs peuvent être similaires, ou pas. Hein, mais parfois, c'est étonnant comment est-ce que deux voix se ressemblent alors que bah, les corps sont différents. Mais il y a un patrimoine peut-être commun. Puis il y a aussi une éducation commune. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est hyper curieux à cet endroit de la confusion entre deux personnes au niveau de leur voix. Bref, ça c'est une aparté, mais en tout cas, ouais, ce qui m'intéresse beaucoup dans la voix, c'est que c'est quelque chose finalement qui est invisible, qui a pas de matière, en tout cas visible, mais qui en transporte tellement, enfin qui transporte tellement de chair, quoi, en elle.
Mmh. Alors là, je suis obligée de relever le mot confusion. C'est quelque chose qui est très important dans ton travail. À plein de niveaux. On va continuer à le voir au fil de l'interview, en fait. Tu parlais des sœurs, de sœurs. En fait, je pense à la performance I Will Make It. Au départ, tu arrives à faire deux... Enfin, les deux bandes sont... Ta voix et la bande sont similaires. Et puis après, ça se décolle, hein, et ça se transforme. Tu peux nous expliquer ce dispositif, puisque tu as parlé de protocole? Pour I Will Make It.
Alors du coup, I Will Make It, c'est une performance sonore, je dirais, qui ressemble un peu à une espèce de conférence. Enfin, je suis juste assise à une table avec un micro. Et en fait, c'est un texte que j'ai comme écrit à partir de d'une série qui s'appelle The Walking Dead. Donc, il y a une série autour des morts vivants. Oui, c'est des morts vivants. Ouais, c'est des morts vivants.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et qui est une série vraiment très américaine sur voilà une espèce de fin du monde et puis comment l'humanité gère cette fin du monde et enfin plutôt les Américains gèrent cette fin du monde et où il y a vraiment cette idée de on va y arriver, ça va le faire. Enfin, ces phrases reviennent vraiment de manière incessante pendant toute la série. On y arrivera tous ensemble, ça va marcher. Enfin voilà, avec quelque chose d'une espèce de tentative d'entraînement collectif, de se rassurer, de croire. Enfin, un truc important de motivation collective, quoi, pour résister. Donc ces phrases, elles m'ont marquée, et donc je les ai récoltées, et puis j'en ai fait un texte, du coup, avec bah, que ces phrases, une liste de phrases, quoi. Et en fait, après, j'ai demandé à une amie qui avait un bon accent américain de juste les dire, pour pouvoir justement écouter la musique de l'accent, la musique de la langue, quoi. Et puis j'ai décidé de ralentir cet enregistrement numériquement. Et puis d'apprendre par cœur en fait la mélodie des phrases, les phrases elles-mêmes et la manière dont elles se ralentissent et comment est-ce que moi du coup je peux répéter ces phrases par-dessus l'enregistrement. Sauf que quand l'enregistrement se ralentit, je peux pas ralentir numériquement, donc moi je ralentis physiquement, et ralentir physiquement c'est se mettre à chanter en fait. Donc il y a une espèce de passage de la parole au chant par le ralentissement de la parole. Et donc je double, enfin on est vraiment simultané, elle et moi, et vraiment à la fin ça devient une espèce de chant de baleine où en fait on n'y arrive plus, enfin c'est je vais y arriver, puis en fait enfin on n'y arrive plus en fait.
Donc il y a d'un côté le décollement, le décalage entre le son et le sens, l'avènement d'une nouvelle forme et l'avènement d'un nouveau sens.
Ouais. Qui a un sens qui, parfois, est pas très... pas forcément un sens avec du langage, quoi, mais un sens physique, un sens plastique, un sens sensoriel, je dirais.
Donc il y a quand même une transformation et en fait il y a l'humour qui advient. L'humour, c'est important pour toi. Enfin, dans ton travail, ça a une valeur importante.
Alors oui, mais jamais dans mes réflexions en amont.
Ok.
C'est-à-dire que je me dis jamais que j'ai envie de faire un truc drôle. C'est vraiment. D'ailleurs, souvent, je suis très surprise du fait que ça fasse rire, quoi. Je le prévois pas comme ça. Moi, je trouve ça hyper sérieux. Et puis, en fait. Bah oui, en fait, quand on se met à parler comme une baleine, en fait, ça devient drôle, mais c'est pas du tout ma réflexion première, quoi. Mmh. À chaque fois, ça me surprend.
Bien, on va écouter alors la performance I Will Make It, qui est une performance de 2018.
I'm gonna make it work. It's gonna be alright. I will go for it. I just keep doing. I know what it is. I'm sure I can work this out. That's what I do. I know what I have to do. There's always potential. I should try. I got to fix it. It's about redirecting what I've done. I've done. Here is not here. This is what it is.
This is what it is.
I have to make up for it. Tell me how it is. I'm not going anywhere. I've made it out. I have to keep going. I may have to. I have to see it. I could have done it. I just wanted to wait. It already happened. It all works together. Let's go. I will find a way. I'm fine. It's
vient d'écouter cette performance I Will Make It. On parlait de l'humour. Avec la transformation, l'humour advient, mais autre, tu parlais de ça, qu'autre chose advenait aussi. Moi, je dirais, c'est la poésie, en fait, qui advient au sens étymologique de création. Quelque chose se crée d'autre. Mais aussi au sens de l'émotion. Le chant, c'est l'émotion pure, entre guillemets. Est-ce que tu te reconnais dans l'appellation poésie sonore ?
Eh bien, oui, je crois. En tout cas, je l'ai utilisé. Mais je ne sais pas exactement ce que ça définit. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs typologies de pièces dans ma pratique. Il y a les performances collectives, il y a les performances solo, il y a les vidéos, enfin les films, et puis il y a les vidéo-performances. Et en fait, je sais pas pourquoi les seules choses que je qualifie de vidéo, les seules choses que je qualifie de poésie sonore dans mon travail. Je sais pas pourquoi, du coup, les seules choses que je qualifie de poésie sonore dans mon travail, c'est mes performances solo. Parce que il y a un rapport au langage, au texte, et il y a quelque chose de l'espace scénique, du coup, qui se crée dans la performance solo, qui, donc, c'est celles qui sont pas en vidéo, mais qui, celles qui sont en live, quoi, devant une audience. Ouais, que j'identifie dans ce champ-là et dans un champ aussi de personnes avant moi, d'un milieu aussi, dans lequel je me reconnais et je me sens, ouais, de naviguer, quoi.
Dans les trois pièces là, on vient d'écouter trois pièces, donc ces dispositifs que tu mets en place. Est-ce que tu cherches à ce qu'ils permettent d'activer une écoute plus consciente chez les auditeurs ? Parce qu'il y a ça, en fait. L'auditeur est très actif dans ton travail.
Ouais, et il tend à devenir de plus en plus... qu'il y ait de plus en plus une confusion entre auditeur et performeur, quoi. Enfin, qu'il y ait... Mais ça, c'est aussi parce que c'est une réflexion que je mène en ce moment autour de la voix comme un espace d'écoute. Et du coup, inversement, comme l'écoute comme un espace actif aussi. En tout cas, il y a vraiment une confusion oreille-bouche,
oui,
qui s'opère.
On va en parler. Ouais.
Donc souvent, les performances, soit elles sont parmi le public, les performeurs débarquent parmi le public, puis on ne sait plus exactement qui performe. Soit effectivement, les protocoles eux-mêmes ou les pièces elles-mêmes. Engage l'écoute à un endroit, c'est-à-dire par exemple la performance And If the Mockingbird Don't Sing, l'idée que ma voix vient tracer un chemin à l'intérieur de la masse vocale des enregistrements, c'est aussi juste, pas pour qu'on écoute ma voix, mais pour qu'on écoute l'enregistrement, comme pour pointer un espace d'écoute à l'intérieur de la masse. Et souvent la voix, dans mon travail, elle arrive à cet endroit-là de... qu'elle soit pas, enfin, on n'écoute pas la voix vraiment pour elle-même, mais on l'écoute pour ce qu'elle nous permet d'entendre, en fait.
Tu parlais de confusion, encore, donc ça c'est un fil aussi. Tu sèmes la confusion dans l'identification des sources sonores dans Singin. C'est un autre décalage, ça, alors ?
Ouais, dans la performance Singing In, c'est donc une performance assez récente qui a ouvert, enfin qui a été ouverte par des découvertes théoriques que j'ai faites cette dernière année, je dirais, qui part en fait du livre de Clara Schulman Zizani, qui elle-même cite des autrices qui sont Laura Mulvey, Katia Silverman et Marianne Dawn, qui ont écrit dans les années 70-80 des textes féministes autour du cinéma hollywoodien et qui parlent notamment de la voix de la femme dans l'espace de l'image et dans l'espace du corps, et à quel point dans ce cinéma-là, dans ce jeune cinéma hollywoodien, les voix des femmes sont enfermées dans des boîtes à l'intérieur du corps et n'ont pas la possibilité de se détacher du corps. Enfin, qui sont vraiment dans cette idée de la synchronicité, mais une synchronicité qui est un peu enfermante, quoi. Là où les voix masculines ont la capacité à par exemple, à être des voix off, Donc des voix qui ont la capacité à se séparer de leur corps, et puis dans cette séparation, en fait, ce qu'elles analysent, c'est que la séparation du corps et de la voix, c'est l'espace de l'autorité, c'est l'espace de l'avancée narratif. Enfin voilà, c'est vraiment l'espace du pouvoir, en fait. Et par exemple, les voix féminines, là, ce qui m'ont inspiré, c'est les voix des showgirls, donc les voix des femmes qui arrivent dans les images pour chanter à un moment, faire un tour de chant, quoi, et où toutes les bouches s'ouvrent, béantes, les regards se fixent, et puis le récit surtout s'arrête, quoi. Il y a quelque chose d'une suspension du récit par la voix féminine. Et après, j'ai continué ces recherches à l'occasion de mes dernières pièces, on pourra en parler. Et donc cette pièce Singing In m'a posé la question, enfin ces recherches en fait m'ont posé la question de la synchronicité entre l'image et le son, ce qui était un peu une obsession jusque-là, c'est-à-dire de créer des dispositifs où le son et l'image avaient l'air de ne pas être enregistrés en même temps, mais en fait étaient enregistrés en même temps. La confusion était dans ce sens-là, c'est-à-dire un peu une envie de voir à quel point, et c'est comme ça qu'est née l'idée de vidéo performance aussi, c'est-à-dire comment est-ce que la vidéo me permet d'augmenter mes capacités dans dans le réel j'ai certaines capacités de performance, et puis grâce à la vidéo j'en ai plus parce que je peux séparer le son de l'image tout en restant synchrone. Et donc voilà, il y avait cette obsession de la synchronicité que j'identifiais pas bien, mais qui était là à chaque fois, et qui a été un peu déconstruite par ces recherches autour du cinéma hollywoodien, avec du coup l'envie, à l'inverse, d'essayer de trouver des espaces de non-synchronicité, et de tromper, ou de créer des confusions à l'inverse, c'est-à-dire, on pense que c'est synchrone, mais en fait ça ne l'est pas. Mmh. En fait, réfléchir à comment la voix peut se séparer du corps, quoi. Mmh. Et dans Singing In, c'est vraiment ça. Ça part du film Singing in the Rain, donc avec ces deux femmes qui sont en concurrence, l'une qui est donc qui était un personnage d'un film muet, enfin une star des films muets, puis qui d'un coup, avec le cinéma parlant, on se rend compte que sa voix correspond pas du tout à l'image glamour qu'elle tient, et donc on lui trouve une doublure vocale. Et tout le film est autour de ces deux femmes et de cette idée de la doublure, de quelle voix appartient à qui, à quel point elles sont liées à leur corps. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est assez extraordinaire comme film, qui parle aussi de la production en fait elle-même du cinéma hollywoodien. Et avec cette scène finale où à la fin donc il y a la star du film muet qui est sur scène, un rideau, et derrière le rideau la doublure vocale qui double en direct la femme qui chante devant le public. Donc elle chante, mais pas avec sa propre voix, elle chante avec la voix qui est derrière le rideau. D'ailleurs la voix derrière le rideau revient après dans mon travail. Et puis il y a donc les hommes qui sont les hommes du film, quoi, qui décident sans consentement de ces deux femmes d'ouvrir le rideau pour révéler le processus au public, et qui est une scène assez violente en fait, parce que toutes les deux sont pas au courant, toutes les deux sont humiliées, enfin voilà, il y a quelque chose du striptease vocal en fait, forcé, enfin quelque chose d'étonnant à cet endroit-là. Et donc dans cette performance que j'ai mis en place, j'ai demandé à deux chanteuses lyriques, donc une chanteuse de chanter une des chansons du film Singing in the Rain, et puis la deuxième de venir derrière elle à un moment pour faire du lip sync, donc la doubler mais sans voix. Et puis ensuite elle suspend le temps de la chanson en bloquant sur une note indéfiniment un peu. Et puis en fait, elles se font donc le relais de cette voix pour tenir cette note. Elles le font en direct. Et de manière absolument pas audible, en fait, à un moment, des enceintes viennent reprendre le son de leur voix pour suspendre encore plus longtemps cette note tenue, quoi. Sauf que le public n'entend pas la différence entre leur voix et le son des enceintes, parce qu'on est dans un espace résonnant et qu'en fait on a travaillé de manière à ce que ce passage ne s'entende pas. Et elles se déshabillent de leur veste et elles s'en vont, et en fait comme leurs enceintes sont dans leur poche, la voix continue à chanter alors qu'elles sont parties. Donc il y a vraiment cette tentative de dissociation du corps et de la voix, et où le public est, voilà, ne sait pas d'où vient la voix, ne sait pas d'où vient cette source. Et en fait même ça a été super étonnant, parce qu'ils se sont mis à soupçonner les gens du public, et où chaque bouche entrouverte était un soupçon en fait. Enfin là, et ça m'a vachement étonnée aussi, parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'ils identifieraient les enceintes dans les poches des vestes, mais en fait non. Et ça a d'ailleurs amené la performance que je viens de faire.
Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Ok. Bah, on va écouter alors Singin' In, cette performance de 2022. Hein, voilà. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous écoutez Les Oreilles Libres, aujourd'hui avec nous dans nos studios, Anna Holweck. Alors Anna, on vient d'écouter un extrait de la performance Singin' In, le phénomène que tu as expliqué là, c'est ça la confusion diégétique ?
Ouais, le mot diégétique c'est un mot un peu compliqué mais qui... explique une notion importante pour moi qui est un son diégétique, c'est un son qui apparaît dans l'espace de l'image que les personnages qui sont à l'intérieur de l'image entendent. Un son extra-diégétique, c'est un son qui apparaît sur l'image mais que les personnages à l'intérieur de l'image n'entendent pas. Et du coup, cette idée de la confusion diégétique, souvent c'est cette image-là je pense qu'on a toutes et tous vu, c'est quand on a une bande son et puis d'un coup il y a quelqu'un dans l'image qui enlève la pointe du vinyle et puis le son s'arrête et en fait on comprend que il y a souvent des travails comme ça qui de l'extra-diégétique au diégétique, enfin des moments de glisser en fait des sons à l'extérieur et dans les images, et en fait c'est des choses qui m'émeuvent toujours énormément de situer le son, enfin ça me c'est super physique, je trouve. Il y a vraiment quelque chose d'une matière qui se déplace dans des cadres, hors des cadres, enfin c'est des choses qui m'inspirent beaucoup, quoi.
C'est la question de l'acousmatique.
Alors c'est un peu ça rejoint la question de l'acousmatique, c'est-à-dire est-ce que un son acousmatique, pour le coup c'est un son dont on ne voit pas la source, qu'on ne peut pas situer et qu'on ne peut pas identifier, donc c'est légèrement différent, c'est-à-dire que disons un concert de musique acousmatique, ce serait un concert dans des enceintes. Une voix acousmatique, c'est une voix donc c'est la voix de Pythagore à la base, qui est derrière son rideau et qui enseigne à ses élèves la philosophie derrière le rideau, et en fait il fait ça pour pouvoir séparer la voix du corps, et en fait c'est aussi une manière de comme diviniser la voix, parce que quand elle n'a pas de corps, quand elle n'a pas de source, en fait la voix acquiert une forme de pouvoir, une autorité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est pas tout à fait la même chose que le son diégétique, mais il y a un champ commun de à qui appartient la voix et dans quel espace elle se trouve, quoi.
Cette pièce Singing, c'est tu démontes une image sonore, en fait le stéréotype d'une image sonore, en fait c'est politique vraiment.
Ouais, il y a un espèce de tournant un peu effectivement engagé à cette dans cette pièce là. Ouais, d'une tentative de séparer la voix du corps, et en fait aussi qui est un peu une avancée dans mon travail, parce que je pense que j'avais comme une intuition que quelque chose autour, enfin ouais, je pense que j'ai été quand même super inspirée par exemple par les princesses Disney qui chantent dans les forêts, qui font justement apparaître l'espace par leur voix, qui font enfin il y a quelque chose comme ça qui finalement quand même tournait autour de moi, puis je voyais qu'il y avait aussi d'autres pratiques de femmes autour de moi, autour de la voix beaucoup, et je me posais un peu la question de cette pratique vocale en fait féminine, et je pense que du coup oui, dans cette pièce là il y a une prise de conscience de d'où ça vient, quoi, d'où ça vient cette pratique vocale, d'où ça vient cette obsession pour la synchronicité, d'où ça vient cette obsession pour la voix qui vient faire sonner les espaces, qui donc voilà, il y a quelque chose qui s'est conscientisé en tout cas à cet endroit là quoi.
D'accord. Tu parlais tout à l'heure de la vidéo performance, et d'abord tu disais que tu avais fait d'abord un travail vidéo important, et puis après il y a eu la découverte de cette vidéo performance, de la vidéo performance, de cette pratique. Est-ce que tu peux nous parler de cette performance concerto pour un hall d'entrée, là où vraiment la vidéo performance a eu un sens important pour toi?
Bah en fait, je sais pas si j'avais une pratique vraiment vidéo avant la vidéo performance. Un peu, mais en fait j'ai l'impression vraiment que la vidéo est apparue par la performance pour moi. Et d'ailleurs avec cette pièce là parce que
donc cette, concerto pour un hall d'entrée,
c'est ça, voilà. Ouais.
C'est assez tôt parce que c'est 2015.
Ouais, c'est vraiment pendant mes études aux Beaux-Arts, ouais. Et ouais, en fait cette performance, donc concerto pour un hall d'entrée, c'était que j'avais zoné dans ce centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, et puis je m'étais rendu compte qu'il y avait de la musique dans les halls d'entrée du centre commercial, donc de la musac.
Qu'est-ce que c'est la musac?
Ben c'est de la musique d'ascenseur, en fait. C'est une musique sans auteur, une musique qui vient comme une musique d'ambiance dans des espaces qui est pas une musique qu'on écoute, qui est un peu une musique qui vient tapisser l'espace, quoi. Et donc ouais, je m'étais rendu compte qu'il y avait ces musiques là, et ça m'avait frappé qu'on les entende à ce point-là pas, quoi, et puis qu'elles transportaient en elles du sens, un effet, enfin vraiment elles étaient effectives, et du coup j'ai eu envie de les faire apparaître, et puis la manière dont j'ai eu envie de les faire apparaître, c'est par la voix, déjà à ce moment-là. Et donc j'ai écrit une partition comme la partie voix de cette instrumentale. J'ai considéré la musique comme mon instrumentale, et je suis venue dans cet espace chanter la partie voix comme si c'était mon orchestre derrière moi. Et dans le but à la base, j'avais comme envie que les gens s'arrêtent et créer une espèce de bouchon à cet endroit de passage, ce qui était un peu prétentieux de ma part. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Quand je me suis mise à performer, personne ne s'arrêtait, les gens continuaient à passer. Et il y a comme une espèce de bataille qui s'est opérée entre moi et l'espace, où moi j'essayais d'arrêter les gens, puis l'espace essayait de continuer à faire passer les gens, puis c'est l'espace qui a gagné. Mais du coup, pendant cette performance, au moment où je la fais, je me suis mise à me dire, ok, donc là, personne ne s'arrête, pour qui je joue? Et en fait, du coup, je joue pour les gens qui seront derrière la caméra, les gens qui seront qui me regarderont ensuite, et où en fait, du coup, les gens qui passent deviennent une partie de l'espace, deviennent une partie de l'instrument. Enfin, que voilà, tout le contexte s'est mis à devenir personnage, Et c'est ça que j'ai commencé à appeler de la vidéo-performance, du coup.
D'accord, bon, on va écouter un extrait de concerto pour un hall d'entrée. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, c'est les oreilles libres avec Anna Holweck, avec nous. Anna, tu dis que, donc, que tu as utilisé dans la performance qu'on vient d'écouter, dans l'extrait de performance qu'on vient d'écouter, concerto pour un hall d'entrée, tu dis que tu as utilisé la vidéo performance pour un public derrière la caméra, car le public en présence ne faisait presque pas cas de toi. Penses-tu que les lieux de performance doivent être dédiés, ou bien que la vidéo performance, est-ce que c'est l'avenir de la performance ? Qu'est-ce que...
Je ne sais pas si c'est l'avenir de la performance, mais c'est un champ quoi des possibles. Enfin, en tout cas, c'est une manière de faire venir d'autres espaces à l'intérieur des espaces d'exposition ou des espaces de monstration plastique, quoi. Et ouais, ça permet de venir ramener d'autres contextes, d'autres espaces, d'autres publics aussi, qui sont publics ou non publics, mais à l'intérieur, oui, ça me permet en fait de venir mettre des espaces dans des espaces, quoi, de mettre des boîtes dans des boîtes.
Oui. Des espaces dans des espaces. En fait, tu parlais tout à l'heure de tes protocoles, en fait, de création. Et tu les définissais comme des espaces.
Ah ouais, je dis ça.
Enfin, peut-être. Enfin, il me semble. Est-ce que ces protocoles sont des espaces des espaces-temps en fait, où la réflexion se joue. Tu vois, est-ce que c'est ça un peu ou non Des espèces de moments où on joue.
Oui, oui. Il y a cette idée de l'improvisation.
Tout en étant contrainte.
Ouais. qui est vraiment très, qui est souvent très cadré, quoi. C'est-à-dire que le, effectivement, le protocole, il installe un cadre. Et puis au moment où on joue, en fait, souvent moi, c'est des moments où je suis finalement assez détendue, contrairement à avant où toute la phase de préparation et tout ça, c'est des moments voilà de tension et ou de concentration très très intense, quoi. Et puis au moment où il y a, en tout cas sur les performances collectives, je joue pas souvent, enfin pour l'instant même jamais. Et en fait, la chose est autonome. Le protocole a été suffisamment transmis, la voix suffisamment travaillée, l'écoute collective suffisamment mise en place pour que ensuite la forme se fasse, quoi. Et puis souvent, c'est des moments où je profite juste du concert. Enfin, c'est des moments assez assez agréables, en fait. Et oui, il y a vraiment ce, donc, par exemple, dans une expiration, le protocole est suffisamment. Enfin, on a vraiment travaillé avec chaque performeur et performeuse, sa voix, son moment, son solo. Mmh. Et en fait, du coup, la forme se fait parce qu'il y a une écoute commune où, en fait, on a réfléchi à. On n'a pas réfléchi à qui, quand. On a juste réfléchi à une forme globale. Et ensuite, c'est juste l'écoute des uns avec les autres qui permet à ce que la forme se construise. Et souvent, on me demande si c'est composé parce que c'est. J'ai l'impression, en tout cas parfois, tellement à l'écoute que chacun est à sa place et que ça semble être composé. Mais en tout cas, non, c'est souvent, enfin, c'est toujours de l'improvisation, mais c'est suffisamment, ouais, je sais pas, travaillé en amont pour que l'improvisation elle-même trouve sa place, quoi. Trouve parce que ça se modifie en fait, une composition qui serait écrite et toujours la même, je pense, m'ennuierait. Parce que j'ai l'impression que, en fonction du nombre de gens dans l'espace, en fonction de l'acoustique, en fonction de du moment, de la lumière, du moment de la journée, il y a quelque chose qui demande, enfin qui, tout ça fait, c'est des demandes de l'espace, c'est des demandes du temps à une forme de composition. Et le travail avec les participants et les participantes et les performeurs, performeuses, c'est de se mettre suffisamment à l'écoute de ces demandes-là, de les entendre pour pouvoir y répondre de la bonne manière, quoi.
Ouais. L'écoute, c'est, et l'utilisation, enfin, l'utilisation, le, ouais, le, la mise en place de l'écoute comme condition sine qua non, quoi. C'est ça, c'est politique aussi.
Ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'une adaptabilité, il y a quelque chose d'une ouverture, quoi, qui effectivement, qu'on peut voir comme un geste politique, ouais.
Ouais. Amour, amour. C'est une pièce que tu. Enfin, c'est une performance que tu joues depuis longtemps. Ça a commencé en 2016 et tu la joues toujours. Qu'est-ce que c'est Amour, amour ?
Amour, amour, c'est une chanson qui est dans un film de Jacques Demy, je crois qu'elle a été composée par Michel Legrand, et qui est une très belle chanson, et qui est une chanson en même temps assez drôle, parce qu'elle est comme la quintessence d'une chanson d'amour, quoi. Et les chansons de Michel Legrand, comme sûrement beaucoup de monde, m'ont beaucoup inspirée, puis c'est aussi justement tout ce jeu avec les clichés des voix féminines, et puis des voix dans l'espace, et puis de la comédie musicale, enfin voilà, il y a quelque chose de très très inspirant pour moi à la base, en tout cas. Et puis du coup, cette performance, c'est donc je chante cette chanson et je la chante en ouvrant et en fermant une porte, donc l'audience n'a accès qu'à une partie de la chanson chantée parce que la porte coupe l'autre partie, quoi, en négatif. Et à la base, c'était l'envie, avec très peu de choses, de faire des fade-in, fade-out, un peu comme la pièce I Will Make It, c'est-à-dire de trouver des manières de faire des effets numériques ou des effets cinématographiques sur le son, ou des effets de montage, en tout cas sur le son, avec l'architecture ou avec la voix, enfin voilà, de trouver une espèce de lot montage par l'espace. Et donc voilà, c'est assez drôle en même temps parce qu'il y a, mais pareil, j'ai pas du tout réfléchi comme quelque chose de drôle à la base. J'ai vraiment eu très envie de faire des fade in et des fade out, mais oui, il y a quelque chose d'assez drôle, d'une espèce de geste un peu d'ouverture de la fenêtre et de chant à l'espace, et puis en même temps cette fenêtre qui est aussi là comme une espèce de claque qui revient pour couper, quoi. Mais Ouais, il y a une espèce de frustration, libération constante, quoi.
Ouais. On va écouter, là. On va écouter un extrait.
Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Amour, amour, je t'aime tant. Amour, amour, je t'aime tant. Amour, amour. Amour, t'aime tant. Amour, amour. T'aime tant, amour. Je t'aime tant, amour. Tant, amour. T'aime tant, amour. Amour. Tant, je t'aime tant, amour. Je t'aime tant, amour. Je t'aime tant, amour.
C'est toi qui décides, en fait. C'est toi qui sélectionnes déjà ce que le public va écouter. Tu joues avec un aspect du choix, de la décision. Il y a du jeu dans et avec cette porte, non ?
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi, effectivement, cette espèce de montage pour les oreilles de l'audience, quoi. Et puis, oui, un jeu, en plus, récemment, elle a pris une autre... elle s'est un peu complexifiée, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une note qui se tient, un peu comme dans la performance Singing In, sauf que du coup, là, je suis toute seule, donc je peux pas du tout la tenir aussi longtemps, c'est impossible, donc quand je ferme la porte, je reprends ma respiration, puis dès que je la rouvre, je fais comme si cette note ne s'était jamais interrompue, donc il y a de plus en plus, elle se tend à se complexifier, cette performance. Et j'aime bien continuer à l'augmenter à chaque fois que je la joue, enfin trouver d'autres jeux avec la porte, d'autres qu'est-ce que ça me permet, quelles sont les possibilités que ça m'offre de trucage, en fait, toujours.
Oui, c'est ça, le trucage, on va en parler là pratiquement tout de suite. Mais avant, je voudrais te dire, du coup, tout à l'heure on parlait du son, du sens, du décalage. Ici un sens, ici aussi en fait, c'est comme un peu à Will Make It, il y a un sens qui advient plus audible au-delà des mots, en fait, par les mots et au-delà des mots, plus neuf, comme mis en valeur.
Ouais, je saurais toujours pas exactement l'expliciter ce sens-là, mais peut-être c'est quelque chose d'un humour par rapport à une distance, par rapport à ses chansons aussi, par rapport à justement aussi la voix féminine, le spectacle.
Oui.
Quelque chose comme ça.
Donc tu crées volontairement, comme tu l'as dit, des fondus sonores, fade in, fade out, de manière naturelle. Et naturellement, il y a chez toi un attrait pour ce qui peut modifier, influer l'émission et la réception du son pour des techniques, en fait. Oui ?
Ouais, complètement. Et surtout, avec souvent, parce que je crois que ce qui m'amuse le plus, c'est quand il y a vraiment très très peu de choses, et qu'avec très très peu de choses, on peut complètement modifier la perception, créer des espèces de troubles un peu magiques, stopper l'émission du son. Enfin, voilà, avec simplement une porte qui s'ouvre et qui se ferme, avec simplement une main devant la bouche, avec simplement des enceintes dans les poches, avec simplement, enfin voilà, des choses qui font décoller du réel, mais avec si peu que ça, pour moi, ça décolle d'autant plus qu'il y a très peu de, ouais, il y a très peu de dispositifs techniques, enfin où la technicité est toujours visible aussi, c'est-à-dire que le micro apparaît dans l'image, la porte s'ouvre et se ferme devant les yeux de l'audience, enfin donc il y a par la révélation du dispositif, du pauvre dispositif, il y a quelque chose pour moi qui décolle d'autant plus, quoi.
Ouais. Et justement, tu parles de dispositifs pauvres, mais ça t'empêche pas quand même d'utiliser des techniques, enfin des outils techniques, technologiques. Mm-hmm. Ouais. Ça te fait pas peur?
Non, parce qu'il apparaît. Mm-hmm. En fait, quand il est, ou alors il apparaît parce qu'il est caché. Mais en tout cas, il est. Tous les trucages sont d'une manière ou d'une autre visibles ou révélés, ou en tout cas un des personnages. Disons qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de technique inconsciente.
Oui.
Ça, c'est aussi Michel Chion qui parle de ça, quelque chose qui a été important pour moi, où il parle du fait que dans le cinéma, il y a, la caméra est toujours située, c'est-à-dire qu'on sait où est la caméra, mais par contre, le micro est souvent inconscient. Les cadrages sonores dans le cinéma sont souvent pas révélés, pas visibles. Et en fait, ça m'ennuie, moi, cette chose-là. J'ai vraiment, je trouve ça hyper drôle de voir une image avec un micro visible dans l'image qui fait qu'on situe, en fait, la provenance, ou en tout cas, où est l'oreille, et puis comment est-ce qu'elle est cadrée, quoi. Enfin, donc, tous les dispositifs technique ou que ce soit de la technique vocale ou de la technique numérique, enfin de la technique sonore ou vidéo, elle est toujours visible, quoi. Les protocoles sont lisibles, les micros sont visibles.
Donc il y a une mise à distance du spectaculaire en quelque sorte, c'est ça?
Ouais, je pense. Alors, en même temps, ça peut produire des choses spectaculaires.
Oui.
En même temps, ça peut produire des choses spectaculaires, mais en tout cas. Il faut faire un effort. Enfin, il y a comme un effort à fournir pour quand même atteindre le spectaculaire, alors que la chose est ostensiblement dégonflée.
Ouais, c'est pas du tout cuit, quoi.
Non.
Voilà. D'accord. Ok. Qu'est-ce que la performance bouche d'aération, puisque là vraiment il y a un micro qui est consciemment mis. Voilà. Alors.
Alors cette performance, c'est une vidéo performance que je joue dans les sous-sols de l'IRCAM.
Récente, hein?
Ouais, récente, ouais.
2023, ouais.
Qui a été créée dans le cadre d'un cycle d'exposition autour de Pauline Oliveros à Béton Salon, et donc ça, c'était pour la partie qui avait lieu à côté de Montréal au musée d'art de Joliette. Du coup, cette performance, je la joue dans les sous-sols de l'IRCAM. En fait, ça, c'est né d'un moment où je suis allée voir un ami jouer, faire une répétition dans la salle de concert de l'IRCAM, et où j'ai entendu le son de la climatisation assez fort. Donc en fait, il n'y avait pas de silence dans cette salle de concert, qui est vraiment une salle hyper technologique, avec des panneaux acoustiques qui peuvent bouger pour faire varier les acoustiques. Enfin, c'est incroyable, cette salle d'écoute et de concert, quoi. Mais il y avait un problème avec la clim, donc en fait, le silence, c'était pas zéro, c'était la clim, le silence. Et j'ai trouvé ça hyper drôle que dans ce temple du silence, avec la chambre anéchoïque, puis avec tous ces musiciens qui y sont passés, tout ça, que ce silence ne puisse pas être, quoi. Mm-hmm. D'autant plus que c'est en plus sous terre, l'IRCAM, et que du coup, il n'y a pas de fenêtre. Donc tout le système de l'air est en fait un système très compliqué de filtrage, de recyclage de l'air, avec aussi une grande précision sur le fait qu'il ne faut pas que ça fasse de son, que ça fasse de bruit dans les studios. Enfin voilà, c'est un système précis. Et donc, en sortant de ce concert, cette répétition, parce que pendant le concert, je pense qu'ils avaient trouvé une solution pour que la clim ne fasse pas de bruit, je suis allée voir les personnes de l'accueil de l'IRCAM, et je leur ai demandé si je pouvais voir le système d'aération, enfin de climatisation de l'IRCAM, et curieusement, c'était possible. Je sais pas pourquoi, cet espace est un espace où les choses sont possibles, c'est trop bien. Donc ils m'ont fait visiter les sous-sols avec tout le système d'aération, et j'ai eu envie donc d'y faire cette vidéo performance qui en fait rejoint une pratique de Pauline Oliveros En fait, elle chante beaucoup avec des bourdons, avec son accordéon. Il y a là vraiment la voix et l'instrument qui se confondent dans l'écoute. Et ça, c'est une pratique que j'ai depuis toujours aussi. Je chante avec les bourdons autour de moi, donc les bourdons des salles de bain, de bouches d'aération, du son du métro, toutes les choses avec lesquelles je peux, les placards électriques, les frigos.
Oui. Avec une performance qui s'appelle Frigidaire,
ouais, voilà, c'est aussi ça. Une performance collective où je chante avec tous les bourdons qui m'entourent. Et donc là, j'ai eu envie de chanter avec le bourdon de la bouche d'aération, mais de manière encore plus particulière, c'est-à-dire en introduisant. Donc moi, je m'introduis dans la bouche d'aération, et puis ensuite j'introduis dans ma propre bouche un micro. Et ensuite, en variant l'ouverture de ma bouche, je viens filtrer en fait les harmoniques contenues à l'intérieur même du bourdon, et ensuite harmoniser avec ma propre voix, avec ces harmoniques. Donc dans une improvisation d'écoute, quoi, où j'essaie de reproduire avec ma voix les sons que je filtre avec ma bouche. Enfin voilà, il y a aussi presque un truc de ventriloquie où en fait ma bouche, La cavité de ma bouche ne sert pas à ma voix, il sert à un espace d'écoute. Vraiment, on introduit une oreille dans la bouche. Et ma voix est derrière, en fait. Elle est plutôt dans mon cou ou dans ma poitrine. Et il y a voilà, comme une espèce de dissociation entre ma voix et ma bouche, quoi.
Une dissociation entre la voix et la bouche. On va écouter alors. Bouche d'aération. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, les oreilles libres, Anna Holweg avec nous aujourd'hui. Tu parlais, ce que j'ai entendu là dans ce que tu disais sur la performance qu'on vient d'écouter, bouche d'aération, est-ce que les lieux d'émission de son sont déplacés? Il y a également une espèce de brouillage des lieux d'émission, de réception. Ça, c'est... Enfin, peut-être un corps dont les fonctions seraient modifiée, étendue grâce à des dispositifs, grâce à des techniques. Ça t'intéresse?
Ouais, c'est aussi comme ça qu'est née la vidéo performance, c'est-à-dire comment est-ce que grâce à des techniques, des dispositifs, on peut étendre, je sais pas, la portée du corps et de la voix.
Ouais. Il me semble que cette performance pose également des questions, la question des limites entre l'intérieur, l'extérieur. Je me trompe?
Non, car effectivement, il y a un peu l'idée du seuil, de à partir de quel moment on est dans le corps, hors du corps. Et souvent, les pièces se situent un peu à la frontière, quoi, de ce passage. Enfin, vraiment, la voix, c'est vraiment ce qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Enfin, c'est une extension déjà, en fait, du corps, la voix.
D'accord.
Et par exemple, la performance Amour, elle est, pour moi, elle est drôle et elle continue d'être importante parce que c'est aussi ce seuil de le pas de la porte, quoi. Enfin, on ouvre, on ferme la porte, on ouvre, on ferme la bouche. Il y a toujours cette idée, effectivement, de qu'est-ce qu'on met devant le seuil. Enfin, est-ce que le seuil c'est une ouverture ou est-ce que le seuil c'est une fermeture? Enfin, vraiment cette.
Dans Concerto pour un hall d'entrée, le hall c'est une entrée,
c'est un seuil,
c'est une bouche,
aussi, quoi.
Voilà, oui. D'accord. Tu as reçu un enseignement aux techniques du son vraiment ou tu as appris sur le tas plutôt ou comment?
Du coup, un peu en composition électroacoustique, mais quand même beaucoup sur le tas aux Beaux-Arts et puis. Je travaille aussi un peu à la radio pour gagner des sous. Et donc, pareil, il y a aussi un affinage, disons, de mon oreille au fur et à mesure, de mes capacités de montage technique. Enfin, voilà, c'est un peu... Je récolte un peu à gauche, à droite des savoirs, quoi.
C'est important d'avoir un travail à côté. Là, je fais une parenthèse. C'est important d'avoir un travail à côté de la pratique artistique pour toi ou...
Oui, à l'endroit où ça me... Par exemple, il y a des pièces qui sont nées de mon observation de ce que c'est que la radio, au cœur de la radio, quoi. Ça me nourrit, c'est un espace super intéressant, j'apprends plein de choses. Enfin, et puis, non, quand ça vient prendre le pas et que ça me limite, et que ça prend de l'espace à l'endroit où j'en ai besoin, mais... Oui et non, quoi, les deux.
Oui, d'accord. Alors, j'ai assisté la semaine dernière à une performance, que tu as un dispositif, un protocole, masque-paume. Masque-paume, ça m'a semblé un peu résumer ton travail, en fait. Parce que il y a, on ne sait pas au départ qui aimait. On est on est à la fois spectateur, on peut être acteur, on est dans l'intimité, dans le groupe, on est caché par cette main, les limites sont à nouveau décalées. Parle-nous de Masque Paume.
Ouais, du coup, c'est né aussi à la suite de toutes ces réflexions autour de la source de la voix. Enfin, la source de la voix, donc la bouche, le fait que la bouche soit visible et que ce soit l'endroit de la synchronicité, comme l'endroit où le corps récupère la voix, quoi. Toutes les tensions, donc mes réflexions et mes études autour de féministes autour de cette idée de la source de la voix ont continué et sont allées vers un texte d'Anne Carson qui s'appelle Le genre des sons, où elle parle des origines grecques de la sexuation de la voix, donc comment est-ce que la voix des femmes et la voix des hommes est différente carrément la voix des femmes chez les Grecs est sexualisée, c'est-à-dire qu'elle donne des informations sur le sexe, sur les règles, sur l'état physique en fait sexuel des femmes. Et il y a carrément une association entre les deux bouches, la bouche d'en haut, la bouche d'en bas. Enfin voilà, il y a vraiment toute une tension, sexuelle autour de la bouche et de la voix des femmes. Là où la voix des hommes, encore une fois, est un endroit de dissociation. C'est-à-dire que une qualité de la voix des hommes, c'est la sophrosynée, donc c'est la capacité à ne pas être envahi par ses émotions, à être mesuré, à être clair. Là où dans l'imaginaire grec, les voix des femmes sont une espèce de continuité de leur corps à l'endroit d'une espèce de jaillissement des émotions, mais qui est aussi un jaillissement de société cathartique qui permet en fait dans des rituels de venir faire sortir les choses innommables de la société. Donc les femmes servent à ça, elles servent à dire l'innommable, elles servent à venir voilà de manière cathartique encore une fois de venir évacuer ce qui doit être évacué par la bouche souvent. Et donc notamment par exemple Echo s'appelle à la femme à la bouche sans porte. Donc le personnage d'Echo, c'est un personnage qui m'accompagne depuis longtemps, mais j'avais encore jamais vu cette chose-là sous cette forme-là.
Donc la nymphe Echo.
La nymphe Echo, ouais, la nymphe Echo. Et donc cette performance, donc ça arrivait aussi dans un cycle de recherche que j'ai aussi fait avec Clara Schulman. On a constitué ensemble un recueil de textes qu'on a lu avec toutes les performeuses de la performance Masque Paume aussi à Béton Salon. Donc un partage théorique de tous ces textes hyper passionnants sur lesquels je suis tombée ces dernières années. Et puis donc l'envie, voilà, c'était de cacher cette source de la voix chez tout le monde, enfin chez autant les performeurs performeuses que chez le public, pour installer ce trouble, installer aussi cet état de confusion entre qui écoute et qui participe, parce que même si le public n'est pas non plus complètement ostensiblement invité, il peut performer derrière sa main, il peut performer, produire du son derrière sa main. En fait, personne ne le saura jamais s'il a participé ou pas. Et donc, il y a toute une composition autour de l'écho, justement, qui se met en place, donc avec des interjections. Les interjections, c'est vraiment les sons qui viennent traduire une émotion qui se situe vraiment à l'endroit du seuil entre le langage et le son, quoi, qui vient quand même articuler une émotion, mais qui reste quand même sans mots. Et donc on fabrique des échos artificiels avec les performeuses, et donc le public est comme voilà baigné dans une composition de sons qui se déplacent, de sons, de gestes vocaux qui se signifient eux-mêmes, c'est-à-dire en disant ohé, caché derrière une main, bah c'est à la fois on signifie qu'on est là, puis en même temps on signifie qu'on peut pas savoir où est-ce qu'on est. Enfin, donc c'est que des gestes sonores comme ça de localisation troublée. Et oui, voilà, donc le public est en potentiel un performeur, mais peut ne pas du tout l'être, et puis en fait on le saura pas, quoi. C'est... Mm-hmm.
Mm-hmm. Au début de cette performance, on voit deux performeuses, l'une avec sa bouche et l'autre tendre son oreille, puis la bouche va dans l'oreille, enfin on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et dans la performance Bouche Gyration, à ce propos, tu dis la bouche comme oreille. Donc la bouche, l'oreille, voilà, c'est ce dont tu disais, c'est ce dont tu parlais, c'est-à-dire émetteur, récepteur, récepteur, émetteur, tout se confond.
Mmh. Ouais, ce geste au début, il est avec ces deux performeuses, donc qui viennent mettre donc une bouche dans une oreille, ou une oreille dans une bouche plutôt. C'était un peu c'est un nouveau geste. Je pense qu'il va apparaître, qu'il va probablement réapparaître souvent dans mon travail, aussi parce que ça vient montrer à quel point franchir le seuil d'une bouche, c'est intime, et franchir le seuil d'une oreille, c'est intime aussi, et qu'il y a quelque chose de effectivement assez déroutant qui pourrait avoir une espèce de quelque chose d'assez érotique, enfin, et en même temps là qui est vraiment juste concret, c'est-à-dire puis là on a trouvé l'oreille qui rentrait dans la bouche parfaitement, c'est-à-dire les bonnes tailles, parce qu'en fait il y a des très grandes oreilles, il y a des très petites oreilles, il y a des très grandes bouches, il y a des très petites bouches, puis il y en a qui c'est pas possible de se trouver, quoi. Mais donc c'était assez drôle ce moment de voir avec qui, enfin qui était d'accord pour ce geste qui était quand même un partage d'intimité, quoi. Et effectivement, ça rejoint la vidéo performance Bouche d'aération, où il y a ce micro qui rentre dans ma bouche, qui est vraiment l'oreille du spectateur, en fait. Donc il y a quelque chose d'un peu monstrueux comme ça, à mettre l'oreille du public à l'intérieur de ma propre bouche par le biais du micro. Mmh.
Tu performes seul et tu performes en groupe. Dans tes dispositifs, dans tes protocoles, comment ça apparaît, ce choix entre le groupe, être seul? Comment est-ce qu'il y a vraiment, enfin, est-ce que tu conscientises bien ça avant? Est-ce que, comment ça se passe? Voilà.
Ouais, souvent c'est très très clair. Il y a, ouais, en fait, c'est vraiment les envies sonores, quoi.
Ouais.
C'est et puis il y a quelque chose quand même quand je performe seul, il y a quelque chose de très intime de ma propre écoute,
oui,
qui est mis en scène, c'est-à-dire ma propre berceuse, la manière dont j'ai monté 50 berceuses ensemble, et donc en fait mon montage, c'est vraiment mon écoute. Enfin, il y a pas d'écoute neutre, quoi. C'est vraiment très très affecté par ma propre oreille. Donc il y a, quand je performe seule, c'est je sais pas comment dire, c'est situé, quoi. C'est un endroit de mon rapport à ma voix, mon rapport à l'écoute. Quand j'imite les phrases de I Will Make It, j'aurais pas envie de le donner à quelqu'un d'autre. Je m'amuse trop en le faisant. Ouais. Je m'amuse à, voilà. Donc c'est dans des espaces comme ça qui sont, quand je performe seule, qui sont des espaces de plaisir personnel, singulier. Et quand c'est avec des groupes, souvent, donc moi je performe pas, à part donc Masque Paume, j'avais mis quelques sons mais cachés derrière ma main, donc ça compte pas. Et puis j'étais pas dans l'organisation collective, c'est-à-dire je me suis rajoutée en tant que membre du public à ce moment-là. Mais c'est parce que là j'ai des envies d'orchestration, des envies de densité sonore, parce qu'en fait une voix seule, c'est quand même très nu, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très, on peut faire des choses, mais il y a quand même une limitation dans l'effet de groupe. C'est formidable tout ce qu'on peut mettre en place de tuilage, d'accumulation, de silence. Enfin, c'est vraiment un gros instrument fait plein de corps, quoi. Donc c'est vraiment très clair dès le début à chaque fois si c'est quelque chose que j'ai envie de faire moi ou si c'est quelque chose que j'ai envie de partager en groupe, quoi.
Alors Anna, l'émission arrive à sa fin. Quels sont tes projets à venir?
Alors mes projets à venir, y a une résidence toute l'année là qui est assez importante pour moi, où en fait à chaque fois que je fais des performances collectives, il y a une espèce de frustration à repartir un peu à zéro avec un nouveau groupe à chaque fois. C'est souvent des groupes d'amateurs, aussi parce que il y a plusieurs choses. Travailler avec des amateurs, c'est aussi partir vraiment du réel et des voix qui m'entourent, mais parfois aussi c'est parce qu'il y a des limites de production qui sont pas simples à tenir. Et donc là c'est une résidence avec le Centre d'Art Lelay et le GMEA Albi, où en gros je vais retrouver un groupe de performeurs toute l'année régulièrement pour aller en fait plus loin dans le laboratoire autour des voix qu'on pourrait mener, donc de retrouver le même groupe sur une année pour voir jusqu'où je pourrais aller s'il y a pas juste une performance et juste un workshop d'une semaine, mais là 4 ou 5 workshops d'une semaine. Donc ça, c'est, je suis contente de pouvoir faire ça. Et puis je vais réaliser un film en février à Priva, qui a été soutenu par le CNAP et la Fondation des Artistes, autour de la ventriloquie. Donc je travaille avec une amie qui est en train de devenir ventriloque pour l'occasion, et où on va travailler autour d'une voix off ventriloquée, donc une voix qui aurait l'air post-synchronisée mais qui en fait serait présente à l'intérieur du corps de la performeuse filmée. Voilà. Et puis après, voilà, des résidences, une exposition solo en mai en Bretagne. Voilà, un peu, pas mal de productions et de résidences, quoi.
D'accord. Et on peut venir voir une performance là bientôt?
Vous pouvez venir à Annecy en novembre. Au centre, comment ça s'appelle? Le Point Commun. Voilà.
Ok, très bien. Alors on va se quitter sur un extrait de Masque Paume. Merci beaucoup, Anna.
Merci à toi.
À tout bientôt. Au revoir.